Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une ce matin, des bracelets d'alerte d'urgence pour les conseillers Pôle emploi. Information France Inter, l'entreprise publique redoute des tensions dans ses agences avec la réforme de l'assurance chômage. Explication dès le début de ce journal. Deux changements majeurs aujourd'hui dans la gestion de la crise sanitaire. Le pass entre en vigueur pour les ados et le gouvernement débranche le fonds de solidarité. On vous expliquera ce que ça change concrètement pour les secteurs concernés. Au sommaire aussi, la fin d'un feuilleton qui tenait les États-Unis en haleine. Britney Spears s'est débarrassée de la tutelle de son père. Et Dubaï qui s'apprête à ouvrir son exposition universelle.
Dans 20 minutes à 7h50, Léa Salamé, je vous le rappelle, reçoit aujourd'hui le metteur en scène Wajdi Mouawad pour l'opéra Oedipe à l'Opéra Bastille.
France Inter.
Pôle emploi, Alexis, sur le qui-vive à la veille de l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage.
Certaines règles durcissant le calcul des allocations à partir de demain viennent de paraître ce matin au journal officiel. Les syndicats estiment qu'elles vont sérieusement pénaliser une partie des demandeurs d'emploi, notamment ceux qui alternent chômage et activité. Dans ce contexte, Pôle emploi redoute les réactions futures de certains allocataires, avec en tête aussi le drame de janvier dernier, l'assassinat d'une cadre de l'agence de Valence. Alors, c'est une information France Inter. Des directions locales prévoient des dispositifs d'alerte pour leurs agents. Maxime Deps, vous vous êtes procuré une note interne du groupe public.
Selon ce document intitulé « Plan d'action sécurité », commande a été passée pour l'Île-de-France de 695 bracelets permettant de déclencher l'alerte. Bracelets auxquels s'ajoutent une centaine de boîtiers dotés d'une sirène multitonalité et d'un flash. Objectif stipule bien la note, permettre aux agents de pouvoir signaler une agression ou une incivilité dont ils seraient victimes et agir au plus vite. Livraison des premiers kits dès cette semaine. La Seine-Saint-Denis sera servie en premier, puis Paris dans 8 jours. Initiative locale pour l'instant. Rien d'annoncé au niveau national, mais des idées qui font leur chemin, comme la généralisation des caméras de surveillance dans les agences, sujet mis sur la table encore la semaine dernière par la direction. Direction qui a tenu bon de transmettre aux agents ces derniers jours, par ailleurs, quelques éléments de communication pour expliquer au mieux les ressorts de la réforme aux demandeurs d'emploi. Cette réforme, véritable usine à gaz, bombe à retardement pour les syndicats, convaincus qu'il y aura des tensions. Pas tout de suite peut-être, mais dans un mois, quand les premiers effets apparaîtront noir sur blanc sur la feuille d'allocation.
Information France Inter signée Maxime Deps, Service Économie et Sociale. C'est aussi aujourd'hui la fin concrète du quoi qu'il en coûte, avec le dernier jour du fonds de solidarité pour les secteurs pénalisés par la crise sanitaire. D'autres dispositifs d'aide vont demeurer à partir de demain, comme la prise en charge des frais fixes. Mais le nombre de bénéficiaires devrait sérieusement baisser, Laurent Kramer, et les démarches pour recevoir le coup de pouce vont se compliquer.
C'est la grande crainte des petites structures ou restaurateurs qui recevaient jusqu'ici le fonds de solidarité. Aux démarches les plus simples à formuler ne subsiste que le mécanisme le plus complexe à maîtriser si ce dispositif de prise en charge jusqu'à 90% des frais fixes reste une aide. Il n'a rien de comparable à la simplicité du fonds de solidarité. Il implique tout d'abord de réaliser un véritable bilan comptable à la fin de chaque mois pour attester la perte de 50% de l'activité. Les toutes petites structures ne sont pas outillées pour ces démarches, alertent les fédérations. Devront-elles engager un comptable pour faire valoir leurs droits ? Obtenir le remboursement des frais fixes sera également beaucoup plus long, de 7 à 8 semaines que l'obtention standardisée du fonds de solidarité, car les pièces comptables seront examinées à la loupe par les services de Bercy aujourd'hui. Bien en peine d'estimer le nombre d'entreprises qui toucheront véritablement ce soutien ciblé.
Des aides qui s'achèvent, des règles durcies pour le chômage et des prix de l'énergie qui grimpent, plus 12% pour le gaz dès demain. L'exécutif veut éviter à tout prix une nouvelle crise sociale. Jean Castex sera l'invité du 20h de TF1 ce soir. On attend de nouvelles annonces, de nouvelles mesures face à cette hausse des prix de l'énergie.
7h34, les adolescents, Alexis, doivent à leur tour montrer leur QR code.
Le pass sanitaire entre en vigueur aujourd'hui pour les mineurs de plus de 12 ans, 12 ans et 2 mois précisément, pour laisser le temps à tout le monde de se faire vacciner. Le pass, un dispositif auquel le gouvernement veut pouvoir recourir jusqu'à l'été prochain, si besoin. L'exécutif compte donc présenter un texte en ce sens le 13 octobre en Conseil des ministres. Le même jour, les sénateurs socialistes, eux, défendront en séance la vaccination obligatoire. Une bien meilleure solution, selon Bernard Jomier, il est sénateur de Paris et rapporteur de cette proposition de loi.
Le pass sanitaire,
il a très bien marché pour pousser les gens à se faire vacciner. Maintenant, il y a 35 000 personnes seulement qui vont se faire vacciner en primo-vaccination chaque jour. C'est-à-dire que il ne fait plus progresser de façon efficace le taux de personnes vaccinées. Donc, il faut changer. Il faut inventer un nouvel outil. En Nouvelle-Calédonie, les élus ont décidé d'une obligation vaccinale pour tous. Il faut poser ce principe dans l'Hexagone. L'obligation vaccinale, c'est une contrainte, après tout, bien légère pour permettre à tout le monde de tourner définitivement la page de cette pandémie.
Bernard Jomier avec Élodie Forêt. Enfin, on apprend ce matin que ce sont finalement 47 départements qui seront concernés lundi prochain par la fin du masque en classe pour les écoliers de primaire. C'est 6 de plus que ce qu'avait annoncé le gouvernement la semaine dernière. Dans le procès Big Malion, c'est à 10h que Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort avec 13 autres co-prévenus. Le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement ce matin sur cette affaire de fausse facture durant la campagne de 2012 pour camoufler l'explosion des dépenses. À l'audience, le parquet a requis un an de prison, dont 6 mois ferme contre l'ancien président, jugé pour financement illégal de campagne. À l'étranger, le Congrès américain a désormais moins de 24 heures pour éviter la paralysie du gouvernement fédéral, le désormais célèbre shutdown. C'est la nuit prochaine qu'expire la loi de finances actuelle. Le vote d'un mini budget provisoire est prévu à la mi-journée. Les États-Unis, où un feuilleton très médiatisé s'est achevé cette nuit. Un tribunal de Los Angeles vient de suspendre le père de Britney Spears de la tutelle qu'il exerçait sur la chanteuse. Tutelle dénoncée depuis des années par les fans de la star avec le mouvement Free Britney, Libérez Britney. Jamie Spears, le père donc, était accusé de contrôler toute la vie privée de sa fille. Alors à l'annonce de la décision du tribunal, explosion de joie parmi les soutiens, comme l'a constaté Loïc Piella.
Quand l'annonce tombe peu après 15h, un fan se prosterne devant le tribunal. D'autres pleurent, certains s'enlacent. Les quelques 200 personnes présentes hurlent toute leur joie. Benjamin, un franco-américain, est soulagé. Après 13 ans de tutelle, la liberté se rapproche pour Britney Spears.
Moi, je suis vraiment content. J'arrive pas à y croire. Je pense que c'est surtout le public, en fait. C'est les fans, c'est les médias, c'est Netflix, Hulu, tous ces documentaires. Vraiment, on fait les choses avancer encore plus vite.
La juge n'a pas prononcé la fin de la tutelle, mais pour les fans, sa décision de suspendre Jamie Spears est plus importante encore. Elle va donner le temps à l'avocat de la chanteuse d'enquêter sur sa gestion contestée. Il est accusé d'avoir exploité sa fille. Il aurait même installé des micros dans sa chambre. Ça gaze Valeria.
C'est une immense victoire. Britney est libérée du contrôle de son père. Si la tutelle avait été levée, elle serait libre, mais elle ne pourrait pas le poursuivre.
Les fans ont fait du bruit bien avant le début de l'audience. Vêtus de rose pour beaucoup, ils ont défilé devant le tribunal au cri de « Free Britney, libérez Britney ». Les organisateurs ont aussi laissé s'exprimer ceux qui voulaient parler d'autres cas moins médiatiques de tutelles abusives. L'affaire Britney Spears donne l'occasion d'appeler à la réforme d'un système jugé parfois trop opaque. Los Angeles, Loïc Pierre pour France Inter.
Pas de spectateurs étrangers aux prochains Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février. Le Comité international olympique l'annonce ce matin à 4 mois de l'échéance. On espère une toute autre ambiance en 2024 à Paris et en Seine-Saint-Denis. Le département qui concentre à lui seul 80% des investissements pour ces JO en France. Mais pour l'instant, les acteurs du monde sportif local n'en voient pas vraiment la couleur. Au quotidien, il manque beaucoup d'équipements pour la pratique sportive de tous. Alors des professeurs de PS et des associations lancent un collectif pour promouvoir cette démocratisation du sport en Seine-Saint-Denis. Delphine Evenou.
Il y a en Seine-Saint-Denis 14 équipements sportifs pour 10 000 habitants contre 47 moyenne nationale. De quoi compliquer la tâche des professeurs d'éducation physique et sportive. Jonathan Alves, représentant du SNEP FSU, exerce dans un collège de Montreuil.
Nos conditions de travail, c'est bien souvent très peu d'installations sportives ou des installations sportives qui sont très lointaines. Sur 2 heures de PS, si j'ai à me déplacer 20 minutes ou 30 minutes à l'aller et 20 ou 30 minutes au retour, on fait le calcul rapidement, on perd 1 heure de pratique et donc les élèves n'auront qu'une heure de pratique effective sur 2.
D'autant que les équipements doivent être partagés avec les sportifs amateurs qui eux-mêmes peinent parfois à pratiquer.
On a des clubs qui n'ont pas de stade, on a des clubs qui n'ont pas de créneau.
Clément Raymond est le coprésident de la FSGT, une fédération qui prône le sport populaire.
Vous avez des stades d'athlétisme où on ne peut plus faire de compétition parce qu'on a des terrains qui sont mobilisés pour le football. Donc on n'a plus la possibilité d'étendre la pratique de l'athlétisme dans toute sa globalité avec les aires de lancer et autres parce que il y a peu d'espace, il y a peu de terrain de foot. Et donc, on arrive à des situations assez ubuesques.
Il faut de toute urgence des gymnases et des piscines, réclame le monde sportif en Seine-Saint-Denis, car la dynamique des Jeux de 2024 ne suffit pas à combler le retard dans un département qui a malgré tout fourni 13 médaillés olympiques et paralympiques cet été à Tokyo.
Le reportage de Delphine Evenou.
Et ce sera le plus grand événement mondial organisé depuis la crise sanitaire.
L'exposition universelle de Dubaï s'ouvre dans quelques heures avec un an de retard, une première pour le Moyen-Orient. Cérémonie d'ouverture ce soir. Les premiers visiteurs seront eux accueillis à partir de demain dans les pavillons de chaque pays, car l'expo universelle, Bastien Bory, c'est aussi une bataille diplomatique.
Il surprend par la simplicité de son architecture, il étonne par l'originalité de son message. Le pavillon France, 1000 mètres carrés de façade vitrée pour promouvoir l'aménagement urbain ici aux Émirats, un pays très demandeur en matière de territoires intelligents et connectés, comme le rappelle Éric Linquier, commissaire du pavillon.
L'idée, c'est qu'à travers tous ces messages qu'on porte, notre souhait, c'est d'arriver à atteindre ce qu'on fait nos prédécesseurs, c'est d'être toujours dans les 3 ou 5 pavillons les plus visités des expositions universelles.
Ici, l'audace est partout. À droite, le pavillon chinois gigantesque, lanterne rouge où l'intelligence artificielle sera reine. À gauche, c'est la première fois dans l'histoire de l'expo universelle que tous les pays du continent africain sont réunis. Et puis, plus loin, le pavillon israélien, un an seulement après la normalisation des relations entre Israël et les Émirats.
Nous avons dessiné notre pavillon de manière à ce qu'il attire l'œil sur la raison de notre présence ici. Il est ouvert des deux côtés pour symboliser l'intégration de l'État hébreu dans un État arabe. Ici, le sable symbolise les dunes, un paysage commun aux deux pays, et là-bas, une inscription vers le futur, écrite en arabe et en hébreu, pour incarner l'avenir de nos relations.
Dans cette course à la compétitivité des entreprises, les Émirats finiront premiers, 25 millions de visiteurs, dont 70% venant de l'étranger, pour passer cette porte d'entrée à mi-chemin entre l'Occident, l'Afrique et l'Asie.
L'exposition universelle de Dubaï, énorme enjeu diplomatique donc pour les Émirats, elle va durer 6 mois.
Alexis Morel, merci. L'édito politique est à suivre.